Il attaque de tous côtés l'œuvre de Dieu et le peuple de Dieu. Il sait que son temps est compté, par conséquent, il veut faire le plus de mal possible avant que son heure ne vienne. La question est la suivante, pourquoi un si grand nombre d'enfants de Dieu vivent-ils dans une telle ignorance des attaques du diable? Je pense qu'il y a un certain nombre de raisons à cela. L'une d'elles est que leur vie spirituelle est tellement impuissante que le diable n'a aucun intérêt à s'attaquer à eux. Ils vivent comme s'ils appartenaient au diable. Ils ne constituent aucune menace pour l'enfer, pour que Satan ait la moindre raison de les déranger. Il les laisse donc tranquilles et ne les dérange pas. Une autre raison est que certains croyants vivent perpétuellement dans un péché tel et dans un éloignement du Seigneur tel qu'ils ne peuvent pas ressentir les douleurs du royaume. Leurs sens spirituels ont été tellement émoussés par le péché qu'ils ne peuvent même pas ressentir la violence qui agite le royaume. Une troisième raison, page 84, est qu'en raison de leur ignorance de la parole, de nombreux croyants mettent les attaques du diable sur le compte des circonstances, de la malchance ou d'autres raisons, sans parvenir à voir celui qui est derrière le système de ce monde. Ces croyants, qui restent attachés au monde ou épris du monde, ne peuvent donc pas connaître par expérience les attaques violentes portées contre le royaume. Il existe cependant certains croyants qui, bien que peu nombreux, constituent la plus grande menace pour le malin. Ce dernier les attaque donc avec acharnement et sans pitié pour tenter de les détruire d'un coup s'il était possible. De tels croyants sont les capitaines de l'armée du Seigneur? Dans une bataille normale, l'objectif est de détruire les maréchaux, les généraux, les capitaines et les autres officiers. Qui chercherait à éliminer de simples recrues? Qui gaspillerait des balles sur un soldat faible, infirme ou mourant? La femme dont il est question dans la parabole était impuissante. Elle subissait de rudes attaques? Une seule personne pouvait lui faire justice, le juge? Malheureusement pour elle, le juge ne le voulait pas. Lorsqu'elle se rendit chez lui pour la première fois, il refusa. Il lui a peut-être dit « Fichez le camp, je n'ai pas de temps pour vous ». Elle s'en alla, mais son problème demeurait. Son adversaire continuait à lui rendre la vie difficile. Elle se rendit à nouveau chez le juge, qui ne voulut pas écouter. Si elle avait eu une autre solution pour s'en sortir, elle l'aurait choisie avec joie, mais elle n'en avait aucune. Sa délivrance était entre les mains du juge. Alors, elle s'y rendit à nouveau. Le juge se dit alors « Je n'ai aucun désir d'être d'un secours quelconque à cette femme. Cependant, elle est devenue un problème pour moi. Si je ne lui rends pas justice, je n'aurai aucune paix. » Ainsi, il décida de lui rendre justice. Il ne le fit que bien plus tard, au moment où cela était devenu nécessaire pour sa propre paix. Dans cet enseignement, le Seigneur déclare que Dieu est comparable au juge inique, non parce qu'il est inique, ni parce qu'il hésite, mais dans sa disposition à laisser notre persévérance le pousser à agir. Dieu prend plaisir à exaucer la prière de ceux qui persévèrent dans leurs demandes. Il y a dans le cœur de Dieu un... Page 85... Élément qui répond à notre persévérance dans la prière? Dieu n'est pas mal disposé. En réalité, il fera promptement justice à ses élus. Il désire ardemment faire justice à ses élus. Il ne tardera pas? Cependant, une question se pose à quel élu, ne tardera-t-il pas à faire justice? Il fera justice à l'élu qui, éprouvé par l'ennemi, crie à lui jour et nuit. De nombreux croyants n'ont jamais crié à Dieu. Par conséquent, ils n'obtiendront jamais la réponse donnée par Dieu lorsqu'il répond à nos larmes. Certains font couler une larme occasionnelle, mais ils l'essuient pour suivre leur chemin comme s'ils n'avaient jamais pleuré. Où sont ceux qui pleurent nuit et jour? Où sont ceux qui ne permettent pas que leurs larmes soient essuyées par quelqu'un d'autre que le Seigneur ou par quelque chose d'autre? Le Seigneur fait réellement justice. Dès qu'il voit des larmes coulant nuit et jour sur un visage, il se précipite à notre secours. Il s'occupe de notre ennemi et nous met en liberté. Parfois, il arrive effectivement que le Seigneur tarde. Il attend pour voir si nous le prenons au sérieux. Il attend pour voir si nous sommes arrivés au point où nous sommes prêts à ne plus chercher d'autres solutions, mais à nous attendre à lui. Dans de tels cas, tardera-t-il? Non, non. Il ne tardera pas? Il agira. L'importance de l'importunité est tellement grande que le Seigneur était même disposé à enseigner davantage sur le thème. Il dit si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur de sa maison cet ami lui répond « Ne m'importe une pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains, je vous le dis. » Quand même il ne se lèverait pas pour les lui donner parce que, c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Luc 11, 5-8. Dans ce passage, comme nous l'avons vu antérieurement, nous voyons un homme en difficulté qui se trouve dans une situation délicate. Il est dépassé. Il ne peut résoudre lui-même un problème urgent. Il a un ami. Il sait que son ami est capable de pourvoir à ce dont il a si intensément besoin. Malheureusement pour lui, il, page 86, est tard, très tard, presque trop tard. S'il avait pu remettre à plus tard la satisfaction de son besoin, il l'aurait fait avec joie, mais il ne le pouvait pas. Il recevait un visiteur dont l'estomac était vide et qui devait avoir quelque chose à manger. Il était embarrassé de voir qu'il n'avait rien pour son hôte. Que devait-il faire? Il n'avait qu'un seul choix. Il fallait surmonter l'obstacle représenté par l'heure tardive. Il fallait qu'il se rende chez son ami, quoiqu'il fût minuit. Il découvrit que son ami lui aurait bien donné du pain s'il n'y avait pas eu les 4 empêchements suivant un tiret et il était trop tard, c'est-à-dire minuit. 2 tirets, la porte était fermée, peut-être à clé, c'était probablement le genre de porte qui, une fois fermée, ne pouvait s'ouvrir que très difficilement. 3 tirets, l'ami était déjà couché. Cela aurait été plus facile s'il était encore debout. Il avait revêtu ses vêtements de nuit. Satisfaire son besoin aurait probablement impliqué qu'il change de vêtements et il ne le désirait pas. 4 tirets, il n'était pas seul à être au lit. Ses enfants étaient aussi couchés. Peut-être dormait-il déjà. Peut-être était-il aussi de ceux qui se mettent à pleurer dès qu'on les réveillait, qui se rendorment difficilement. S'il se réveillait, comme il l'aurait certainement fait si l'homme avait accepté de donner du pain à son ami, cela aurait pu couper le sommeil de cet homme et de ses enfants pour tout le reste de la nuit. Après avoir considéré tous ces facteurs, l'ami aurait pu alors dire « Je t'aime ». « Tu es mon ami, mais c'est impossible, tu m'ennuies ». L'impossible devient possible, l'ami, qui était dehors, entendit toutes ces excuses raisonnables. Il comprit que son ami commençait à être désagréable ou déraisonnable. Il comprit sa situation, mais il considéra son propre besoin, qui ne pouvait pas être remis à plus tard. Il décida de persévérer et, par sa persévérance, de rendre possible l'impossible. Il continua à demander et à frapper. Cela atteignit le point où, page 87, l'ami, à l'intérieur de la maison, sentit que ce qu'il craignait le plus, c'est-à-dire que ses enfants se réveillent, était sur le point de se produire en raison des coups répétés. Il décida de se lever, de donner à cet homme ce qu'il demandait et d'avoir la paix. La Bible dit même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin, Luc 11, 8. Son ami s'étant réveillé, peut-être lui a-t-il donné non seulement du pain, mais aussi du poisson et des boissons. Dieu est comme cet ami couché. Nous obtiendrons ce que nous voulons, et même plus, si nous persévérons. L'impossible deviendra sûrement possible pour celui qui persévère. Ceux qui demandent une fois ou 2 fois abandonnent parfois sans obtenir leur récompense, mais l'âme qui persiste ne s'en ira jamais sans être bénie. De toute façon, un tel ami importun ne peut s'en aller sans avoir obtenu de réponse. Une persévérance encore plus grande, le Seigneur continue à dire « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira » Luc 11, 9. Le Seigneur voulait dire en réalité « Demandez, continuez à demander et vous recevrez ». Intensifiez vos demandes, allez au-delà d'une simple demande, cherchez tout en demandant. Cherchez, continuez à chercher et vous trouverez. Allez même beaucoup plus loin qu'une simple recherche. Chercher doit vous conduire à frapper. Cela signifie une ferme résolution de demander et de chercher avec ardeur. Ce qui ne sera pas obtenu en demandant le sera, quand on se mettra à chercher et, s'il le faut, à frapper. Plus loin, le Seigneur dit « Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe » Luc 11, 10. Il n'y a donc aucune raison pour que quelqu'un demande et ne reçoive pas. S'il fallait que quelqu'un demande sans recevoir, ce serait certainement dû, en premier lieu, au fait qu'il n'aura pas demandé avec persévérance. S'il frappait sans qu'on lui ouvre, il serait alors possible qu'il ait abandonné juste au moment où le Seigneur allait lui ouvrir. Page 88. La vie de prière de certains croyants reste au niveau de la demande. Ils reçoivent ce qu'obtiennent ceux qui se contentent de demander. Ils reçoivent tout ce que l'on peut obtenir en demandant s'ils remplissent les conditions pour que leur prière soit exaucée et s'ils persévèrent dans leur demande jusqu'à ce que la réponse vienne. Cette étape de la demande est le niveau élémentaire. Tout commence par là. Mais ce n'est pas la seule étape. Au-delà de l'étape de la demande se trouve celle où l'on cherche. Chercher représente une action plus intense. Chercher constitue une démarche beaucoup plus intense. C'est le niveau où l'on commence à combattre dans la prière. Personne ne peut chercher d'une manière passive. Plusieurs choses qui ne peuvent être obtenues en demandant et en continuant à demander seront obtenues par celui qui cherche. Chercher implique un effort plus déterminé. Quelqu'un peut demander sans recevoir, puis s'en aller tout calmement. Cependant, si nous devions chercher dans la prière sans trouver, nous serions complètement frustrés. Peu de croyants prient de cette manière. Cela coûte, car il faut savoir ce que signifie se saisir de Dieu pour s'approcher de l'exaucement. Il y a enfin l'étape où l'on frappe. C'est l'étape de la prière violente sur le plan spirituel. Le Seigneur se trouvait à ce niveau dans le jardin de Gethsémané. C'était intense. C'était violent. Il lui vint une sueur semblable à des grumeaux de sang. Il ne s'agissait pas d'un jeu d'enfant. Prier à ce niveau veut dire que l'homme tout entier, dans son esprit, son âme et son corps, est engagé dans la prière? Si Dieu manquait de répondre lorsque nous nous situons à ce niveau-là, alors ce serait fini d'une façon permanente pour la personne qui prie. Nous atteignons là un point de non-retour, au-delà duquel nous ne pouvons plus aller plus loin dans la prière, ni dans le combat, mais où nous nous reposons dans la volonté parfaite de Dieu. Il faut que la volonté de Dieu soit connue avant de nous engager dans une prière quelconque. Mais Dieu révèle sa volonté à ceux qui sont prêts à persévérer dans la demande et la recherche, à endurer l'intensité du combat et à frapper nuit et jour pendant un temps, avec larmes et soupirs. Lorsque de tels saints sont assiants, page 89, prière, Dieu leur dévoile sa volonté d'une manière que d'autres ne pourront pas connaître. Et cette révélation produit une paix parfaite. L'importunité, clé pour connaître la volonté parfaite de Dieu, on peut dire du Seigneur Jésus, qu'il entra à Gethsémané en connaissant la volonté de Dieu. Il en sortit en connaissant la volonté parfaite de Dieu et étant uni à cette volonté parfaite. En un sens, l'on peut dire du Seigneur que quelque chose de profond et de très solennel s'accomplit en lui dans le jardin. Il se rendit au jardin et sachant qu'il devait mourir. Il sortit du jardin prêt à mourir. Il était venu dans ce jardin horrifié par le caractère inique du péché, il sortit du jardin pleinement identifié au péché. Sa puissante prière d'importunité fit la différence. Il était différent, en sortant du jardin il ne posait plus de questions, il n'éprouvait rien qu'une profonde acceptation, une joie débordante de savoir que la croix était la volonté du Père pour lui, il était prêt à s'en charger et à mourir sur elle. Un mot au futur éleva l'école de la prière importune. Dieu recherche des vainqueurs qui puissent coopérer avec lui afin de les conduire au point où il ne conduira pas tous ceux qui croient en son Fils et qu'il aime. Dieu appelle certains auxquels il veut révéler d'une façon spéciale son plan final pour combattre Satan et ses armées. Lorsqu'il trouve de tels hommes et qu'il leur révèle son but, il s'engage à frapper de tout leur être et d'une manière importune, coopérant ainsi avec Dieu pour l'avènement de son royaume. De telles personnes auront un prix très élevé à payer la solitude, l'intensité dans la prière, des combats toujours croissants et un plus grand nombre d'attaques provenant de l'enfer. Mais ce sont ceux qui ne se reposeront ni la nuit ni le jour. Ils ne donneront pas non plus à Dieu une seconde de repos, mais prieront jusqu'à ce que le Seigneur apparaisse dans les nues et pour établir son royaume. Page 90. Veux-tu payer le prix? Veux-tu faire partie de ces vainqueurs? Finalement, souviens-toi, Dieu veut savoir à quel point nous sommes sérieux. Il n'a que faire de ceux qui ne sont pas sérieux. Dieu a beaucoup de choses en réserve pour toi et pour l'Église, mais tu ne les connaîtras pas tant que tu ne l'importuneras pas et que tu ne le fatigueras pas longuement par tes prières. Un homme ou une femme désireux, que la volonté de Dieu soit faite à n'importe quel prix, priera nuit et jour. Il priera avec larmes et soupirs. Cette prière déchire le cœur. Elle est épuisante. Une telle prière ne consiste pas tout simplement à réciter des prières que l'on jette à Dieu. C'est une question de vie ou de mort, exigeant des larmes, une agonie, des souffrances de cœur et des combats. La prière profonde coûte cher. Comme il est triste de savoir que très peu de croyants en savent quelque chose. Puissions-nous grandir dans la prière et, par notre importunité, contraindre Dieu à libérer ce qu'il ne pourrait pas libérer autrement. Puissions-nous éprouver une sainte colère contre le diable. Puissions-nous lui dire « Satan, je vais régler ton cas ». Et puissions-nous alors, par une prière importune, lui déclarer la guerre. Certains croyants prient une ou deux fois, ou pendant un ou deux ans, et lorsqu'ils ne voient pas la réponse, ils se découragent et disent « Dieu n'a pas répondu ». Si par exemple nous prions pour la conversion d'un conjoint ou d'un enfant et que nous arrêtions de prier après 3 ou 4 ans, en nous justifiant par le prétexte que Dieu n'a pas exaucé, nous trahissons notre premier engagement en révélant ce qu'il était réellement un faux engagement. Si nous sommes sérieux, nous prierons jusqu'à ce que la personne soit convertie, même si nous devions prier pendant 50 ans. Le Seigneur terminait son enseignement sur l'importunité en demandant « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Celui qui a une foi authentique croit aux promesses de Dieu. Il croit en Dieu. Il est prêt à l'importunaire, même lorsque tous les signes apparents sont contraires. Il faut de... Page 91. La foi pour continuer à prier pour un mari dont l'hostilité contre le Seigneur semble augmenter quand on prie davantage pour lui. Que Dieu nous accorde cette foi. Nous en avons besoin et il faut que nous l'ayons. Seigneur, viens-nous en aide. Page 92, chapitre 9. La supplication, la Bible dit « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » Timothée 2, 1. Mais toi, si tu as recours à Dieu, si tu implores le Tout-Puissant, si tu es juste et droit, certainement alors il veillera sur toi et rendra le bonheur à ton innocente demeure. Job 8, 5-6. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire. Psaume 28, 2. Béni soit l'Éternel. Car il exauce la voix de mes supplications. Psaume 28, 6. La supplication est le cri d'un cœur qui plaide intensément, une prière désespérée adressée au Seigneur dans une situation donnée. La supplication intervient lorsque la situation est tellement désespérée que l'on comprend que si Dieu n'agit pas, nous aboutirons à un échec absolu et que cet échec entraînera un drame indescriptible. Celui qui supplie sait qu'aucun autre secours n'est possible. Ce secours ne peut venir que de Dieu et de lui seul. Cela revient à se tourner vers le seul espoir possible. La supplication de Naomi, la Bible dit « Je l'ai questionnée au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. » Ils répondirent « Ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux, et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts, écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs les enfants. » Page 93. D'Israël, en confessant les péchés d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescris via Moïse ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnais à ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples, mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai, je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as racheté par ta grande puissance et par tes mains fortes. Ah ! Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. Néhémie 1:2-11. Il ne s'agissait pas d'une prière ordinaire. Il avait reçu de mauvaises nouvelles concernant la situation de sa ville Jérusalem. Il pleura et fut dans le deuil. Oui, ceux qui supplient ont la situation tellement à cœur qu'ils peuvent en pleurer. Il ne s'était pas contenté de pleurer. Il fut aussi dans la désolation pendant plusieurs jours. Comme si tout son être était en train de se briser. Il jeûna, puis il supplia. Sa prière fut particulière. Il se tint devant Dieu nuit et jour. Il était tellement écrasé qu'il ne prit aucun repos et ne voulut laisser à Dieu aucun répit. Il n'aurait pas pu prier quelques instants et abandonner. Comment pouvait-il abandonner? Le fardeau de Jérusalem pesait lourdement sur tout son être. Il savait que le péché empêcherait d'accéder au Seigneur, c'est pour cela qu'il implora le pardon de ses péchés et de ceux de son peuple. Il ne pouvait effacer leurs péchés, mais il avait réellement ouvert son cœur au Seigneur dans une profonde confession. Il plaida pour le peuple s'appuyant sur les promesses de Dieu qu'il pardonnerait à son peuple s'il se repentait. Après avoir ainsi imploré le Seigneur, il lui demanda de lui faire trouver grâce devant le roi. Néhémie alla demander au roi des faveurs qui ne lui auraient pas été accordées normalement si Dieu n'avait pas touché le cœur du roi d'une façon spéciale. Quant à lui, désespéré, il supplia avec, page 94, ferveur. Comment Dieu aurait-il pu faire la sourde oreille à une telle prière? Il l'exauça. Gloire à son saint nom! Puissions-nous aussi supplier, sachant que nous ne manquerons pas d'être bénis. La supplication d'Zoshia de roi 18:19 pendant le règne du roi Eshia, Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Eshia négociait la paix, et Sanchérib imposa à Eshia 300 talents d'argent et 30 talents d'or. Eshia lui donna tout l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi. Malgré cela, le roi d'Assyrie continua à menacer Eshia et à se moquer de lui ainsi que de l'Éternel. En ces termes, les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? De roi 18:33. La situation semblait désespérée et probablement sans issue. Lorsque le roi Eshia eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel de roi 19:1. Il envoya aussi une lettre au prophète Osaï, disant « Ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel, et il n'y a point de force pour l'enfantement de roi 19:3. » Ainsi nous voyons toutes les circonstances qui ont précédé la supplication. Il déchira ses vêtements, se revêtit d'un sac, dans la détresse, l'opprobre et la honte. Si nous n'avons jamais éprouvé un tel déshonneur, si nous n'avons jamais vu ce qui nous est le plus cher foulé aux pieds, au point d'éprouver une grande détresse et un profond chagrin, alors nous ne serons jamais capables de supplier. La supplication est la prière de celui qui est désespéré. Que fit Eshia dans de telles conditions? Il monta à la maison de l'Éternel et déploya la lettre de Sanchérib devant l'Éternel. Puis il prit ainsi, Éternel, Dieu d'Israël assis sur les chérubins. C'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre, c'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends les paroles de Sanchérib qui a envoyé Rab Chaké pour insulter au Dieu vivant. Il est vrai, ô page 95. Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu, mais ce n'étaient point des dieux, c'étaient des ouvrages faits de mains d'hommes, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éternel. De roi 19:14-19. Il avait répondu de son être devant Dieu. Il n'utilisa pas de phrases inutiles. Il ne tourna pas en rond. Il ne fit que manifester son désespoir comme un homme profondément affligé, un homme qui n'attendait aucun autre secours que celui de Dieu. Il dit à Dieu, Seigneur, si tu n'agis pas, c'en est fini de moi. Lorsque nous parvenons, dans notre prière, au point où nous savons que si Dieu n'agit pas, c'en est fini de nous, le Seigneur peut alors entrer en action, car il ne peut nous laisser partir sans nous bénir. dans le cas présent, l'Éternel exauça la supplication d'Eschia en lui disant « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le roi d'Assyrie, il n'entrera point dans cette ville, il n'y lancera point de trait, il ne lui présentera point de bouclier, et il n'élèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu, et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver, à cause de moi et à cause de David, mon serviteur de roi 19:32-34. Dieu ne promit pas seulement de défendre la ville. Il la défendit effectivement. La Bible dit cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Alors Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna et il resta à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisro, son dieu, Adramélec et Charessé, ses fils, le frappèrent avec l'épée et s'enfuirent au pays d'Arara de roi 19:35-37. Page 96. La supplication de Daniel, Daniel 9. Daniel voulait désespérément voir s'accomplir la promesse de Dieu à l'égard d'Israël. Ce désir lui tenait à cœur, remplissait son être et le rongeait littéralement. Il désirait ardemment voir s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à son peuple. Que fit Daniel? Il ne se contenta pas de prier, il supplia. Pour lui, il s'agissait d'une question de vie ou de mort. La parole de l'Éternel dit « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. » Je priai à l'Éternel mon Dieu, et je lui fis cette confession, Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion de face en ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont au loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités, dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs, qui nous ont gouvernés, il a fait venir sur nous une grande calamité, et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier semblable à celle qui est arrivée à... Page 97. Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous, et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu, nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités, nous n'avons pas été attentifs à la vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a faite venir sur nous, car l'Éternel notre Dieu est juste dans toutes les choses qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante, et qui t'ai fait un nom, comme il l'est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et, pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines, regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon Dieu. Car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple Daniel 9:1-19. Voilà l'exemple classique d'une véritable supplication. Dans celle-ci, Daniel reconnaît le péché de son peuple, avec lequel il s'identifie constamment, disant « Nous avons péché, nous nous sommes rebellés, etc. » Sa confession du péché fut profonde et minutieuse. Rien ne reste à cacher. Il ne fit pas la moindre tentative de se justifier. Il reconnut la grandeur de Dieu, sa bonté, son amour, sa fidélité, etc., en des termes très clairs et indiscutables. Il plaida avec Dieu. Il supplia. Ô Seigneur, ô Seigneur, ô notre Dieu, ô Seigneur, ô mon Dieu, ô Seigneur, ô Seigneur, ô Seigneur, ô mon Dieu. Ces paroles n'étaient pas de vaines répétitions, mais provenaient d'un cœur qui suppliait ardemment. C'était un cœur brisé qui se répandait devant Dieu. Quelqu'un d'autre utilisa les mêmes mots dans une supplication au Seigneur ? Ô notre Dieu ! Ô notre Dieu ! 2 Chroniques 20, 5-13. Page 98. Des hommes confortablement assis et prenant leurs aises ne pourront jamais prier ainsi. Une telle émotion et un tel déchirement dans le cœur, exprimés dans la présence de Dieu, sont le propre de ceux qui ont les yeux ouverts et qui voient les terribles conséquences qui seraient en jeu si Dieu n'intervenait pas. Comme nous l'avons déjà montré, aucun homme engagé dans la supplication ne peut s'en aller sans être béni. En ce qui concerne Daniel, la Bible dit « Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu, je parlais encore dans ma prière, quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te l'annoncer Daniel 9-20-23. » Daniel reçut une réponse. L'archange vint aussitôt d'un vol rapide. Il ne pouvait pas venir à une vitesse normale. La supplication avait touché le cœur de Dieu et provoqué une réponse des plus sérieuses. Dieu, étant ce qu'il est, agit sans aucun délai. Si la prière permet à Dieu de nous adresser sa réponse, par courrier ordinaire, la supplication entraîne une réponse par téléx. Cependant, le téléx coûte plus cher que le courrier normal. Jusque-là, dans notre étude, nous avons vu le cas d'hommes qui suppliaient pour des causes qui dépassaient leurs problèmes personnels, même si ces problèmes les concernaient personnellement. Nous allons maintenant examiner le cas de personnes qui supplièrent pour obtenir la solution de problèmes purement personnels. Nous verrons ce qu'elles firent et comment Dieu leur répondit. La supplication d'Anne Samuel 1 Anne n'avait pas d'enfant. Rien d'autre ne pouvait la consoler. Malgré le fait que son mari l'aimait, il y avait un vide douloureux dans son âme que seul un enfant pouvait combler. Elle monta à page 99, silo pour prier. La Bible dit l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs 1 Samuel 1, 10. Elle était affligée. Son besoin la consumait. Elle était affligée parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle ne connaissait que larmes et amertume. Son âme était dans la détresse. De telles circonstances ne peuvent donner lieu à une prière superficielle. Quelle âme en détresse prierait à la légère ? Anne était tellement abîmée dans sa prière que Mamélie ne put pas la comprendre. Peut-être n'avait-il jamais prié avec une telle intensité. C'était un homme qui abordait la vie d'une manière assez simpliste et qui n'avait jamais été réellement désespéré. Mais Anne était désespérée. Anne décrit sa prière en des termes appropriés, ceux de toute véritable supplication « Je répandais mon âme devant l'Éternel. C'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. La supplication et l'effusion d'une âme devant le Seigneur, c'est parler sous le poids d'un excès de douleur et de chagrin de l'âme. » Très peu de gens connaissent par expérience ce genre de prière. Le Seigneur Jésus ne la connaissait que trop bien. Il dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici éveillée. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloigna de lui. Marc 14, 34-35. Quand la situation des âmes qui périssent aura commencé à nous toucher profondément et que notre cœur, notre âme et notre corps auront été entraînés dans la plus profonde identification à leur état de perdition, nous connaîtrons l'agonie de l'âme et nous répandrons nos cœurs devant Dieu en priant pour eux. Ô Dieu, fais cette œuvre en moi. La supplication d'Anne ne resta point sans réponse? Le sacrificateur Élie lui dit « Va en paix » et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. 1 Samuel 1:17. Elle crut en ses paroles et le désir de son cœur lui fut accordé. Elle conçut et donna naissance à Samuel. Dieu est fidèle. Page 100. La supplication d'Zochia de roi 20:1-11 et Échia tomba malade et il était sur le point de mourir. Le Seigneur lui parla par le prophète Osaïe, qui lui dit « Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras plus de roi 20:1. » Comment réagit-il? Commença-t-il à se préparer à mourir en écrivant son testament, etc.? Non. Il tourna son visage contre le mur, déterminé à ne se laisser distraire ni détourner par qui que ce soit. Il décida de se tourner entièrement vers le Seigneur et vers lui seul. Puis il pria et plaida avec Dieu, en ces termes au Éternel. Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Échia répandit d'abondantes larmes. 2 Rois 20:3. Il pleura. Il supplia. Puis il pleura encore et le cœur de Dieu fut ému, car il lui adressa le message suivant. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici je te guérirai, le 3e jour tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années de roi 20:5-6. Les paroles que Dieu adressa à Échia sont importantes. Non seulement l'Éternel avait entendu sa prière, mais il avait aussi vu ses larmes. Ainsi, la prière qu'il avait entendue et les larmes qu'il avait vues poussèrent Dieu à guérir Échia et à lui ajouter 15 années de vie. Que se serait-il passé s'il avait seulement prié mais sans verser de larmes? Je ne le sais pas. Dieu l'aurait peut-être seulement guéri sans lui ajouter les 15 années, ou peut-être même ne l'aurait-il pas guéri du tout. Tout ce que nous savons, c'est que ces larmes étaient importantes pour Dieu. S'il remarquait leur présence, il aurait aussi bien pu remarquer leur absence. Si nous sommes complètement absorbés par Dieu, nous n'avons pas honte de pleurer. Non seulement le Seigneur de gloire a pleuré, mais il a aussi transpiré, et sa sueur devint semblable à des grumeaux de sang. Non seulement Dieu fut disposé à guérir Échia et à lui ajouter 15 années de vie parce qu'il l'avait supplié, mais il accepta aussi d'accomplir un miracle aux répercussions très sérieuses. Il fit reculer l'ombre de 10 degrés pour l'assurer que les miracles, page 101, qu'il avait promis pour sa guérison et l'addition des 15 années allait s'accomplir. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Lorsqu'il trouve les hommes qu'il recherche, des hommes qui supplient, il n'y a aucune limite à ce qu'il peut leur accorder. Puissions-nous aussi prier et entrer dans le groupe privilégié de ceux qui supplient, car ce sont ceux que Dieu choisit. Page 102, chapitre 10. L'intercession, le besoin d'intercesseur, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis à Jérusalem, tu es une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la colère. Ces prophètes conspirent dans son sein, comme des lions rugissants qui déchirent leur proie. Ils dévorent les âmes, ils s'emparent des richesses et des choses précieuses, ils multiplient les veuves au milieu d'elles. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires, ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane, ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur, ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. Ses chefs sont dans son sein, comme des loups qui déchirent leur proie, ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Et ses prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, de vaines visions, des oracles menteurs, ils disent ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Et l'Éternel ne leur a point parlé. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur, l'Éternel. Ézéchiel 22:23-31. La condition déplorable de ce jour, en considérant la condition déplorable de ce jour, nous devons nous rappeler que ce verdict, ainsi que cette analyse, sont de Dieu et non de l'homme. Puisque cette analyse est celle de Dieu, elle est très précise et elle dépeint une situation sérieuse. Ézéchiel 22, page 103, 23. Le pays est souillé, il est impur. Ézéchiel 22:24. Quoiqu'il soit mûr pour le jugement, il n'a pas encore été jugé. Ézéchiel 22, 24. Le fait qu'il n'ait pas encore été jugé jette une lueur d'espoir. Quelque chose peut encore être fait. Il n'est pas trop tard. Cette situation épouvantable est causée par une destruction venant de trois sources. Destruction causée par les dirigeants spirituels, Ézéchiel 22, 25, il y a une conspiration de ces prophètes dans son sein. La conspiration ne fait pas l'objet d'une discussion et d'un arrangement public, mais il est tout simplement connu que personne ne doit prendre une position ferme contre le péché, de peur d'offenser les membres des églises et le grand public, ou de peur de tarir les offrandes. Il y a une conspiration parmi les prophètes, les dirigeants spirituels. Comme des lions rugissants, ils dévorent la proie. Ils exploitent matériellement les croyants et se bâtissent de grands bâtiments appelés églises où les pécheurs sont tout doucement entraînés vers l'enfer. Ils sont occupés à faire de l'argent, à avoir un plus gros salaire, à avoir des voitures et des maisons plus grandes et plus luxueuses, etc. Aucun soin n'est accordé aux veuves et aux nécessiteux. Les pauvres sont négligés et rejetés. On se contente de dire aux affamés « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé » et on ferme les yeux à leurs besoins pratiques plus qu'évidents. 2. Destruction causée par les croyants, Ézéchiel 22, 26. Les croyants sacrificateurs ont violé, enfreint la loi de Dieu en vivant consciemment dans le péché. Bien qu'ils vivent consciemment dans le péché, ils continuent malgré tout à vivre comme si tout allait bien. De tels croyants ont pollué même les choses spirituelles, car tout ce que touche celui qui est impur devient impur. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est pur de qui est impur. À cause de cette attitude, vis-à-vis du péché, tout devient flou. Page 104. 3. Destruction causée par les princes chefs politiques, Ézéchiel 22, 27. Les chefs politiques, comme des loups qui ravissent leur proie, répandent le sang, perdent les âmes et assouvissent leur cupidité par un gain déshonnête. Ces chefs politiques ne font que suivre le modèle établi par des chefs spirituels corrompus et dans le compromis.